Il a été tiré de cet ouvrage 10 exemplaires sur Hollande, 100 exemplaires sur Japon, 10 000 exemplaires sur Verger Édition. Henri Béraud. Le mémorial de la rue Sainte-Hélène. À Petrus Sambardier. Très précieux enfant d'Émail, fils spirituel du. Puisses-tu, je vous offre ce livre. Au temps de notre jeunesse et de nos antiques travaux, nous ressemblions aux quatre bouts, dont. Voici le mémorial. Nous étions ainsi, vous avant moi. D'autres avant vous. Les jeux, l'insouciance et les désirs. De astérisque ces songes creux étaient les nôtres. Ce qu'il est. Amuse nous amusa et ce souvenir vous amuse pis. Être encore. C'est dans cet espoir que je place votre nom d'iré. Praquebol lyonnais au seuil de leurs annales sans. Université. Mais je voudrais, mon cher ami, que nous ne. Fassions pas seuls à nous tourner vers ce qui est déjà. Notre passé, que ces histoires de chez nous ne semblent sans point archéologique à la folâtre jeunesse, qui nous doit succéder, sous ces brumes où il naît de spleen et de morosité que selon les gens forains en ce pays. Hélas! Saurons-nous trouver le langage que parlent après nous ceux qui nous succèdent et dans quel idiome ils se gossessent de nous. La pensée d'une affection qui nous unit, vieux camarades, malgré les ans, les kilomètres, la guerre et la politique, me consolerait de bien pires déboires. Avril 1919. Le mémorial de la rue Sainte-Hélène. I. Rencontre. Par une venteuse soirée d'octobre, un jeune cavalier, entouré de six guitaristes, roucoulait une sérénade sous les jalousies d'un hôtel espagnol. On se chantait, il vocalisait, il triait, en aileron. Dissant le mollet, il souriait de son air le plus gracieux. Mais, des cris furieux tombaient du ciel, en même temps qu'une averse de sol et de pommes cuites. C'était au grand théâtre de Lyon, où l'on jouait le barbier de Séville. Un plaintif ténor s'efforçait d'expectorer la cavatine et de rôter le si naturel. Des aquilons de sifflets en cou rageaient ses tentatives. Bientôt, le pauvre comte Almaviva Aban donna la lutte. Entouré de ses guitaristes, de verres crus habillés, il faisait penser, avec son feutre à panache et son manteau de velours, à un géranium secoué par l'orage au milieu d'un carré de légumes. Cependant, le poulailler, ameuté, n'était qu'un hurlement. Là-haut, cela gesticulait et grondait comme une réunion publique. Des bras, des cannes, des chapeaux s'agitaient au grand vent des soirs de chahut. Assis sur les plus hauts gradins, un maigre et ardent jeune homme perdait le souffle à force de crier. Résiliation. Régisseur. À bas la claque. Résiliation. Un autre hurlait, érigé sur un banc d'appui. Entre deux colonnes, tel Samson au temple. Des Esquelanes. À Carpentras. À la Fourrière. À l'Opéra. Et, tandis qu'au-dessus de cet intraitable amas, Thor, un gros joufflu tirait du parquet gémit. Sent un nuage de cette poussière des théâtresses. Qui sent l'orange et le crottin, un quatrième. Orné d'un nez circonspect, soufflait dans un. Sifflait d'un air absent, maniaque et discipliné. Comme sifflent les chefs de gare. Finalement, quatre agents vêtus de noiré. Qui se ressemblaient comme des frères, quatre. Agents à gros nez, gros cou, gros pieds et. Grosse moustache, ayant appréhendé haut. Corps les quatre mécontents, les traînèrent au poste de l'hôtel de ville. Là, un pâle nactylope se frottait les yeux et tirait sa barbe en pointe. « Je suis, dit-il, le commissaire. Vos noms ? Votre fige, domicile, profession, fiche de votre père, nom de votre mère. puis, leur ayant confié qu'ils partageaient leur sentiment quant au plus vieux ténor, il ajouta doucereusement. Il y a en moi, messieurs, deux hommes. Le dilettante, qui vous approuve, et le policier, qui vous dresse procès-verbal. Ayant ainsi parlé, ce goron mélomane à paix. Pela. Gaufrier. À l'appel de ce nom, parut un mammouth. Il portait, outre des moustaches énormes qui se recourbaient comme deux défenses, des galons. Deux brigadiers. Il parut et prit au mur un trou. Saut de clé. Moi conduisez ces messieurs au neuf, dit le com. Missaire qui, aussitôt, se mit à chantonner là. Finale en fugue du deuxième acte de Carmen. Gaufrier cracha par terre, puis retroussant ses antennes d'un revers de main, il poussa les captifs devant lui. Un instant plus tard, il se trouvait enfermé dans un ténébreux réduit qui fleurait les baumes d'hiver, du mégot, du dégueulasse, du flic, du chien mouillé et de la veste. Les jeunes détenus prirent place sur le bas flanc. Ils s'ignoraient. Leur descente du PA. Radi rappelait, par sa rapidité, la chute des mauvais anges. Tout leur esprit, dans l'escalier, avait été d'en mesurer les marches, afin de ne pas descendre que par-dessus tête. Ainsi, la force publique les avait traités sans faveur, d'un zèle rapide et d'une poigne lourde. Ils étaient venus là si vite qu'ils n'avaient pu faire connaissance en route. Ils n'étaient plus tant qu'ils y songeassent. C'est pourquoi ils s'ignoraient en se frottant les côtes. Un grand silence les enveloppait, rompu de loin en loin par le craquement des godillots du mammouth, veillant dans le couloir, et aussi par les bruits de la rue, qui entraient en bouffe. Fait sonore lorsqu'on ouvrait la porte du com. Missaria. Au bout d'un long moment, une voix s'éleva. Messieurs, dit la voix, il ne nous est plus possible d'en douter, nous sommes au violon. Socrate disait que la certitude raffermit les âmes saines et réjouit les esprits forts. Allez, jouissons-nous, messieurs. D'ailleurs, notre violon est un fameux Stradivarius. Nous logeons dans la propre cellule du Jacobin Joseph C.H.A. Lier, qui fut guillotiné, en 1793, place des Terres. Ro. La hache dut tomber trois fois avant de le décoller. Ce violon, messieurs, a souvent joué la carmagnole pour les émeutiers lyonnais. Les voraces de 1832, les charbonniers du Père Bazar en 1837, les blanquistes de 48, les amis de Vermorel sous la Commune, nous ont précédés dans ce cachot. Et nous, qui moisis sont ici, ne sommes-nous pas insurgés pour la sainte cause de l'art? L'oppression ne nous réduira pas l'ami, crions, à bas la direction. Faudrait voir à la bouclée, dit la voix du brigadier. Quand on est coffré, ce n'est pas pour vociférer de la sorte. Cet homme a raison, reprit, dans l'OM. Brie, la même voix. Nous sommes coffrés. Mais avez honneur, dans un cachot dont moi, historien et chartographe, je connais tous les secrets. Si vous connaissez celui d'en sortir, vous devriez bien nous en faire part, répondit une voix nasillarde qui montait du sol. Tiens, dit une troisième voix, il y a un phonographe par terre. Un phonographe qui baisse pavillon. On se barbe ici, et comment qu'on se barbe? Dire qu'à cette heure nous verrions ces sylphes légères danser Grete Neugrin, Alma Viva étant heureux, Rosine délivrée et Bartolo Cocu. Zéro ballerine, chers à mon maître de gars, que ne pouvez-vous venir en ce cruel séjour, sur les raies lunaires, ainsi que les filles subtiles et bienfaisantes d'Astarté. Ce propos emphatique fut suivi d'un si. Lens. Puis, le troisième verbalisé, debout. Dans l'ombre, par là. Il fait soif, dit-il. Et il soupira. Le quatrième, comme dans la chanson, ne disait-il rien. Mais il fit flamber son briquet. Et alors, tandis qu'il allumait sa pipe, les autres, tournés vers la flamme, virent une face ronde. Une bonne figure innocente et poupine, là. Vraie mielle d'un gonne de chez nous, dont les molles roses et jovioles rondeurs faisaient penser à Urguet. Jacquard et Justin. Godard. La mèche s'éteignit, l'apparition dit. Parut. Dans l'ombre, qui retombait plus haut PA. Que, le poupard d'où était sa pipe et la fumée roux. Laisse ses arabesques dans le bleu rayon de la lucarne. Au beffroi de deux trois. Moins aïl, minuit frappe. Paix. Voici l'heure tranquille où it et lion va boire. Dit la voise. Du plancher. Très est-elle G.E.S., se l'herme. Tégette, elle déberonnée. Le basilic s'ébatte. Au nocturne pelouse lu ciel monsieur Herriot. Fait une conférence et rentre chez lui, parler. Quai, en fumant sa dernière pipe. Cependant, les prostibules de Luc d'un homme s'emplissent de débauchés. Honte ATM prétorien qui nous retiennent dans les fers. Honte aux cognes. Honte ATM flic. Pesseré sin CSE bita au sural, interrompit. L'homme debout. Yes, SI-13CD2C. USISX Russell. In Casdi. Pekalo, TCSE VCS arrête si end. 13EI2EZIC. Svocht Zedi. Jiver SI-MIR 13E7.ARIC. Rech bar oblique MIDSU de nos CCS2, good. Ferdamef était-vous polyglotte, monsieur? Point je ne suis que polygamie, répondit l'autre. Avec modestie. C'est déjà quelque chose. Turc ou mort. Te. La un, les ontxer d'un yareya baramé.m. Mon, pacha ou citoyen de l'TTTA, kadi ou. Prospecteur, fez, narguilet, babouche. Ou. Bien égal lasso, rifle et siambéro. Rien de tout cela, monsieur. J'ai voulu dire seulement que je suis célibataire et que, par voie de conséquence, en quelque sorte, les deux autres prisonniers s'endormaient. F. à serrure grinça. Dans un brusque rectangle de lumière, la silhouette du mammouth se découpa. Et il a dedans la représentation. Elle est finie. Vous pouvez apronativernant rentrer chez vous. Et les prisonniers sortirent, la tête haute. Orgueilleux d'avoir subi la Bastille pour la cause de la très haute. 17. Il y. Un dent un thé accent aigu s. Tous quatre, sous un bec de gaz, se réguèrent. D'air. Ils se connurent et ils se plurent. Ils étaient jeunes. Le régime des prisons n'avait point flétri la fleur de leur teint. Qu'est-ce qu'on fout ? Demanda l'un des quatre, après un silence. On pourrait aller prendre quelque chose ? Où donc ? À Kléber ? Au Beaux-Arts ? Au Lion d'Or ? Moi, dit le bénin fumeur de pipe, je sais. Un bouchon où l'on déguste un Juliennas à ceux. Taper le nombril contre les lustres. C'est un peu loin, à Perrache, à côté de chez moi, rue Sainte. Hélène. C'est peut-être formé, mais il n'y a quatre chapeaux au volet. Je suis connu et on nous fera entrer par l'allée. Ça va? Ça va? 1.9. Bibliothèque 2, Guignol. Pourquoi pas? Laissant les grilles du vieux palais des Èches, vint et l'immobile ruminant devant sa guérite. Ils gravirent la rue de la République. Des canuts se hâtait vers le griffon et la ficelle d'un sou. Une lente pluie lavait les trottoirs en dânes. Sentent devant les rélos blafards des réverbères. Au loin, les cafés lumineux se reflétaient dans le bitume profond comme des navires en fête. Attachés au port, nous sommés les argonautes partis à la conquête de la boisson d'or. Conduit notre nef au pilote fumeur des Game Beers, au toit qui connaît la taverne où le nectar de mille grappes d'état s'est haché des cèpes de Fuisse et de Villiers-Morgon. Par des vignerons pleins de force et de silence, verse aux hommes altérés le breuvage que Dioniso remit aux mortels pour leur faire aimer les grâces de vie. Celui qui parlait ainsi était un gone en uni forme de rapin, légère comme le pollen du pissenlit. Sa jeune barbe couvrait ses joues et son menton. C'était un peintre, et cela se voyait. Il marchait comme il parlait, avec pompe et ampleur. Mais, de loin en loin, il donnait de grands coups de canne dans les tôles des uris noirs de haine. Le inimoriat de la rue Saint-Hélène. Il était naïvement la bohème. Chaque génération lyonnaise produit ainsi quelques adolescents de bon vouloir pour perpétrer les désuets usages du cénacle et débarrasser les chapeliers d'eau leur rossignol. Par bonheur, chez nous, les ridicules de la jeunesse se tèment. Père de bonne gognandise et s'abreuve en deux. Beaujolais. Ainsi le vieil esprit guignolesque. Le vin de nos pères contribue à l'émancipation des enfants. À côté du descendant périmé des phalans. Terre, marchait l'homme qui, dans la nuit du poste, professait l'histoire des violons. Court, trapu, vif, mis au goût du jour, il était entièrement rasé et sa figure, un pouls grasse, s'asseyait sur un faux col provenu de Chicago. Des pantalons sportifs et flottants couvraient ses bottines très américaines. Et ce transatlantique s'exprimait avec l'accent de la grande côte. À qui ai-je l'honneur, dit-il, en levant le né vers le sommet du peintre. Charles Gioessès Rancy, né à Lyon, 5 rue de la Monnaie, le 21 septembre 1885, peintre, ailé. Niste, sonologa et noctambule. Il fonda dans sa patrie une école prospère et mourut chargée dans de richesses, d'honneur et des malais. Dictions de l'école qui succéda à la sienne. La 21. Bibliothèque de Siguignol. Brigue le roulement des derniers fiacres et filles. Que tous les dormeurs du voisinage s'étaient à l'angle de la rue de l'Hôtel de Ville et de la rue Tupin se retournèrent sous leurs édredons. Inouï, formidable, Escalaï, Dupré, Duc. Caruso, Scarambert s'écria Canéchore. Monsieur, dit le peintre, votre voix unie. La tendresse des harpes orphico retentit. Semant des conques de Neptune. Moins merci, monsieur. Moins à votre service. Toutefois, avez-vous songé que, pour revêtir le pourpoint de Roméo, la cuirasse de Lohengrin, la collerette de Raoul, de Nangy, la lévite d'Éléazar ou les brais de Sigurd, il ne siérait point de se nommer Magnan. Et moins encore, naturellement, pas au cul. J'y ai songé, répliqua, avec un inquiétant sourire de malice, le ténor. Je cherche un nom. Denière, quelque chose de ronflant. Prenez, comme moi, un nom britannico. Lyonnais. Que diriez-vous de Bordaouai, de Batandé, de Richerand ou de Coquilla? Ce n'est pas le genre, je crois. Les noms anglais sont réservés aux sportifs. Au théâtre. Il faut quelque chose de vieille France ou des Pagnols et d'un peu ronflant, comme Delma. Alvarez, Dalmoret. Je pense, du reste, avoir trouvé. Que pensez-vous de Lionel Daltour?
26.
Le mémorial de la rue Sainte-Hélène.
Gossetons et comparons, dit Josserand.
Magnin, Daltour, patte au cul, Lionel Dal.
Tour.
C'est mieux, il n'y a pas à dire.
Les.
C'est heure, c'est l'adopter.
Cependant, le quatrième compagnon s'arrête.
T'es sous un réverbéré, tirant de sa poche.
Un obèse calepin, il se mit à écrire, tout en se grattant le bout du nez avec son crayon.
Et vous, camarade taciturne, dit Cannes.
How, your name?
Comment vous?
Appelez-vous?
Pierre Dupont, avec deux P.
Je fais.
D'ailleurs, comme l'autre, des chansons.
Mais?
Des chansons en vers libre et en vers blanc.
Dont je compte les pieds sur mes doigts pour
être bien assis que le maître classique n'y est
pas.
À part ça, vas au chien, licencié en droit et clair.
En l'étude de M. Bibas, Rumulet.
Par la fée.
Naître de l'étude, je vois une vitrine de char.
Cloutier qui m'inspira la courte odelette que je
viens d'écrire.
Voulez-vous me permettre?
Très volontiers.
Il déclama.
Mortadelle.
Qui porte un nom singulier.
Et brutal de citadelle.
Boudin, lové comme amphibène.
27.
Vidélio tâche l'accent grave que de ce guignol.
Andouille.
Peau de verre cadavre.
Gelée, mer fauve, Atlantique d'or.
Dont les rêveurs
ont pour môle les truffes d'ébène.
Galantine au cœur malsain.
Et transalpin.
Chipolata.
Je me borne, messieurs.
Si la suite vous ine.
Thérèse, vous la pourrez lire dans le prochain.
Fascicule des feuillets d'art libre, dont la colle.
Lection est conservée à la bibliothèque de la
ville, par les soins de Monsieur Richard Cantinelli.
Ancien élève de l'école des Chartes.
Les feuillets d'art libre.
Mais je con.
Nay, dit l'historien.
J'en ai acheté un exemple.
Plaire chez Durand, sous le péristyle.
Ah.
Monsieur, c'était donc vous.
Nous
avons si longtemps cherché qui pouvait être
l'acheteur.
Comme on se retrouve.
D'ailleurs,
je connais un peu Monsieur Josserand.
Moi, dit le peintre flatté.
Vous avez vu
mes toiles, au salon d'automne.
Oui, je, non, c'est-à-dire que j'ai
entendu parler de vous par une personne que
je, enfin, c'est la Marguerite Pétalue.
Sang du Christ.
Un beau frère.
Souffrez.
Que je vous embrasse.
Le monde est petit.
Mais je bois dans mon verre.
Allons, mais.
28.
Le mémorial de la rue Sainte-Hélène.
Sieur, allons célébrer cet heureux rang.
Contre.
Dites donc, mélodieux d'Altour, c'est temps.
Cor loin, votre caboulot.
Nous y voilà.
29.
4.
Libation.
Les quatre jeunes garçons atteignaient ce
coin de lion nocturne, où les chars pesants
qui vont, à des destins sans gloire, vers les
gluants vénitieux et les insondables grands
trous, berce de leur roulement mêlé de
bruit de chaînes les chastes sommeils des
époux de Perrache.
À l'angle de la rue Sainte-Hélène, ils firent
halte devant une devanture close.
Un mince
filet de lumière passait sous le volet.
Par le
vacistas ouvert, des voix et des bruits de
verre gagnaient
la rue.
Ils frappèrent.
Tout
se tut, la lumière s'éteignit.
Au bout d'un
instant,
quoi qu'il y a, dit une voix.
Moi c'est moi, moi, patte au cul.
Ah.
Bon, on y va.
La porte d'allée s'ouvrit.
Les amis s'y
engouffrèrent.
Au fond de la cour, on voyait
31.
Bibliothèque de Tété Guignol. dans un fournis ouvert, des mitrons qui pâtissaient devant des lueurs d'incendie. La pluie tombait au dehors, prenante et tenace comme un chagrin. Un agent passa, s'arrêta, repartit. Reflété comme un triton dans le bitume lui. Sente. Dans un coin, sous l'unique bête de guet, il y point avait un ivrogne perplexe qui mesurait des yeux, comme le fond d'un abîme, la coiffe de son chapeau. Depuis des heures, ce biberon, ayant perdu de vue les chemins ordinaires de l'existence, errait dans un labyrinthe philosophique, politique, économique et social dont il désespérait de trouver l'issue. Oui, parfaitement, déclarait-il à son chat. Po, parfaitement, je règne le peuple, le prolétariat, il se dresse comme la statue du commandant, camarade, je vais vous expliquer. Et le chapeau bâillait à se décrocher les bords. Les deux buveurs, qui occupaient une table ronde vers la porte, n'étaient pas moins que l'orateur des feutres, soustrait aux réalités du monde sensible. L'un fumait avec véhémence. Un charbonneux Jacob et vociférait une espèce de réquisitoire scandé d'énormes coups de 32. Le mythe m'a énué. Uyou, reps s'attire Hélène. Pointant le vide. En face de lui, un petit homme, qui n'avait pas un seul cheveu, sous riait d'un air heureux, pacifique et bienveillant. Tout en versant à boire. Le braillard prit les nouveaux venus à thé. Moins. Regardez-moi rire ce sacré cogne mou. Il ne comprend rien, rien du tout. Il est par. Fumeur. Bravo Irera. Bravo. Soupira Dune. Voix plaintive le pochard perplexe. Et il se. Remis à considérer les profondeurs vertigineuses. C'est de son chapeau. Deux garçons de café en gilet échancré et chemise raide mangeaient des rigotants. Silence. Plus loin, un austère groupe de Manils. Leurs avaient l'air d'un quatuor de sourds muets. Dont la conversation se fut bornée à l'échange. De bouts de carton. Et enfin, à la table centrale. On voyait un chœur de Gansreilers et barbus. Dont l'un n'exposait que la plus triste situation. Pour un fumeur, était d'être passé à tabac. Point ayant en poche une pipe en terre bien culottée. Un autre attestait que cette incommode peau. Scission ne saurait se comparer à celle d'un mari. Qui, distrait, rentre au domicile conjugal avec un corset sous le bras. Ces intéressants et instructifs props moti. 33. Q à nul 111 t y a bon zère illi. Ananana 7R1. Connu bien C, corde, un va et point vie. NT. De bouteilles qui faisaient penser, la sortie E. De la ficelle d'un sou, TN jour de vogue à la. Croix rousse. Le point patron sur 20. Il marchait d'une manière étrange, en ayant l'air, le jeter avec de guettes ses pieds autour d'eau lui. N ces messieurs. Moins de peau, et de l'antique, dit Magnien. Surtout, reprit le cafetier au pied mou. Pas d'eau sicotie ce soir. US nous surveille. On entendit un bruit de bottes sur le trottoir. Et ce rythme lent et désœuvré qui est le pas. Des sols urbains. Cela s'unissait à la cadence solennelle du balancier de l'horloge. Moins alors, de peau. Et le patron remorqua dans la sueur ses savates pareilles à des vides poches. Les conversations reprirent. L'homme au chapeau. Précipice, pris du mal des montagnes, vacilla. Sur sa chaise, puis s'abattit sur la table parmi. Des restes de fromage fort. Pour un bas de café, c'est un bas de café, dit le poète. C'est un bouchon du vieux temps. Patiné, doré et culotté comme une brioche. C'est dans ces bouchons-là, dit Canet Chauve. que les socialistes lyonnais de 1830, disciples du père Enfantin et du père Bazard et Labeau. 34. I. E. Mémorial de la rue Saint-Élenay. Ray la nuit, en vidant des pots, les cœurs dit. Tion du bonheur universel. Un puissant et large ronflement s'éleva. Comme des flancs d'une contrebasse. Le pochard politique rêvait d'un état où les penseurs seraient enfin abreuvés aux frais de la princesse. C'est curieux, dit le ténor, il ronfle sur l'air de la juive. Si on l'accompagnait en quatuor. C'est vrai, dit Josserand, nous sommes quatre, comme dans la bohème. Nous recommes. Aimons-nous l'histoire. Notre amitié, que je désire. Tenace et féconde, commence en singerie. Bah, dit l'historien, des cons et plus. Sieur, on singe toujours quelques groupes. Fameux. On est Don Quichotte et Sancho, ou les trois mousquetaires, ou le directoire, ou la Pléiade. À huit, cela devient plus compli. Qu'est ? Pas du tout, dit Josserand, c'est la cas. Démi du Gourguillon. Puis les dix Goncourt. Les douze apôtres. Les treize. Le Quindécemvira. Les quarante. Le Palais Bourbon. 35. Bibliothèque de, Guy 1.701. Le tas, la masse, la foule, le grand tout est. Le grand rien. Qu'est-ce que ça fout, reprit Canéchore. Notre objet est de vivre. Passons à notre tour. Et pensons dans l'avenir, s'écria le poète. J'ai fait un poème. Il tira de sa poche une feuille de papier. Azuré propre à riler un d'autre exploit que ceux des cavaliers de Pégase. Et il lut. Écuyère. Ce trombone pleut. Jeu de fleurs humaines. Banderole, gaz, cerceau. Et ce clown à face de mastique. Algèbre acrobatique. Je te veux nu. Toute nue comme un seuf. Lodoïska, ou Laurence. Bugles, timbales, cymbales. Vous n'aurez point mon habitude. Ni mon hante pendue au lustre. Des cerceaux. Messieurs. Dit le cafetier, qui écoutait et était devenu méconnaissable, il va être 3 heures du matin. Laissez-nous boire, misérable. Messieurs. 36. Le mémorial de la rue Sainte-Hélène. Deux pots, où je chante. Cléronapate. Au cul. Le mastroquet, dompté, posa des hux bouteilles. Sur la table, cependant que les autres consomment. Mateur gagnait la porte à reculons sans quitter des yeux l'inquiétant auteur d'ouillère. Seul, demeurait prostré sur sa table le poids. Vrau solitaire, qui, flottant sur les ondes d'un musical sommeil, avait depuis longtemps perdu de vue les berges de l'humanité. Tess. Votre poème est d'une beauté singulière. Dit le peintre. J'illustrerai volontiers un volume écrit de cette encre. Nous devons toutefois prévoir que le fruit de nos communs travaux ne nous vaudra point les faveurs de l'Académie de Lyon. Monsieur Fier des Galants, qui fait des vers à la façon de Casimir de la Vigne. Et Monsieur Tony Mollet, qui peint avec ses pieds des tableaux comparables à son visage, nous oublierons probablement quand viendra l'heure de distribuer les prix en espèces. J'accepte de tout cœur votre collaboration. On nous dédaigne, mais la postérité saura nous reconnaître. Et quand le dormeur s'éveillera, le dormeur vous emmerde, dit l'ivrogne. Qui s'était soulevé. 37. Bibliothèque de G. Guignol. Canaïchiou se dressa. Répété un peu. Mais l'autre s'était déjà rendormi. Les bouts. Taille s'alignaient sur la table et le ténor sous. Piret, absorbé dans leur contemplation. Les beaux meubles, bon Dieu de bois il est. Bomobli. Ils burent encore. Et la fumée des pipes suspendait au-dessus de leur tête un édredon.
Parfumé.
Messieurs, dit alors celui qu'on nommait Patoku, je demande à collaborer à votre œuvre de sédition artistique.
Vous?
Oui.
Je vous ai menti.
Je ne suis ni
soyeux, ni ténor.
Je suis compositeur de mu.
Sik.
Hein?
Oui, messieurs.
C'était plaisanterie.
J'ai
le goût de ces déguisements moraux, si je puis ainsi m'exprimer.
C'est un plaisir sadique.
Qui n'en a pas tâté n'imagine pas le plaisir de
passer pour un couillon.
Mais votre voix.
J'ai une belle voix, mais cela ne suffit pas.
Pour être ténor,
il y faut, en outre, la bêtise.
Vous en avez de bonnes, vous, dit le
peintre.
38. Le mémorial de la rue Saint-Achin-Lys 6.
Messieurs, je vous l'y demande grand patte.
Point d'eau.
Soyez absous, mais ça s'arrose.
Impôt.
4 heures sonnaient à Saint-François.
C'est l'heure, dit le patron.
Il faut être
raisonnable.
Le dernier.
Rien à faire, dit le bistrot qui pensait à ce
qu'allait lui casser sa bourgeoise, qui, depuis
minuit, errait dans les salles toutes du lit conju.
Gal.
Ah.
Cœur de Pierre, s'écria Pierre des points up.
Pont, cet homme est plus implacable 100 fois
que les ciments de Tony Garnier.
Partons.
Par ici, messieurs, doucement à cause
des voisins qui se sont déjà plaints aux régies.
Sœur.
Attention, il y a une marche.
À demain.
Messieurs, la porte d'allée est ouverte.
Les 4 amis se suivaient en file indienne.
Dans un profond silence, les mains tendues.
Aux ténèbres.
39.
V.
Transitoire.
Alors, dit Canebore.
Alors, dit Josserand.
Alors, dit Dupont.
Les gars, dit le pseudo-ténor, je vais
vous faire une proposition.
J'habite là, tout
à côté, rue Sainte-Hélène, c'est une petite camp.
Bus de compteur de roquet.
Mais il y a des
chaises.
Si vous voulez, vous ne le regrettez.
Trépas.
J'ai quelques bouteilles de vin.
Elles
me viennent de mon oncle, qui est curé de
Fleury.
Le curé de Fleury, hurla le poète, de
Fleury.
Mantums.
Et tout le suivirent.
41.
6.
L'amateur de cru.
Une vraie chambre d'eau jeune musicien, hôte.
Le pléiel à queue servait d'eau meuble factotum.
À la fois table, dieu et même cuvette, car c'était
manifestement sur les airs sonores point de son.
Acajou vénérable, que Charles Magnin, dit
Patoku, procédait à ses ablutions.
Il en
restait des vestiges qu'il lit disparaître par un
scrupule de bienséance.
Un autre coin du piano paraissait succomber.
Sous le fait des partitions, que le buste de
Wagner dominait, comme posé sur un socle.
Au mur, sur le papier peint décoloré, le
musicien avait épinglé des cartes postales qui
étaient les portraits de ses plus éminents
confrères et précurseurs.
On voyait Beato
Veine, au front massif sous la crinière, et dont
les traits sont puissamment moroses, Berlioz.
Maigre, osseux, tourmenté, pointu, coiffé en
coup de vent, et qui semble, comme son fidèle.
43.
Bibliothèque de Guignol.
Lamartine, s'être fait portraiturer sur les
cimes.
Ndel souriait sous une majestueuse
perruque de blanc d'œuf battu, et le tassis.
Turne Rameau s'obstinait, en sa pathétique
sécheresse, à ressembler à Jean-Jacques.
Claude Debussy mêlait son visage barbu à
toutes ses faces glabresses et ses cheveux courts. d'homme moderne à toutes ses toisons. On voyait encore, piqué sur le panneau de la porte, une bizarre gravure russe qui reprit. Sentez la musique, non sous les traits du terp, mais sous la forme d'un loup qui joue. Du Buglancy. Voici l'affaire, dit l'hôte de ses modestes bois. Et il tira d'une sorte de placard Alceofsis. Ou sept flacons poudreux qu'il posa en fil sur le troisième angle du piano. On dirait, pensa tout haut le poète, une procession de pénitents, revêtus de la sainte burde des caves. Moins goûté. Les amis trinquèrent en silence. Puis, ils burent comme de vrais gans, c'est-à-dire avec une méticuleuse piété. Fameux, dit le peintre. Bien fruité et corsé, dit Caneshaw. Mais le poète laissa tomber simplement. 44. Lit et morule de la rue Sainte-Hélène. 1911. Bien dit, s'écria Patoku. Je vois que vous êtes un connaisseur. Cela me décida. Tirer de ce qui me sert de cave une certaine bouteille. Ce vin-là, messieurs, est celui avec lequel mon oncle célèbre les messes Carillon. Né. Il lui a été offert par un de ses plus fidèles. Les paroissiens. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, du vin de derrière les cagots. On tâta la bouteille. Elle fut jugée digne de son sacerdoce. Puis, les quatre copains reprirent. Rent la liquidation des chartreux qui attendaient. En fil sur le coin du pléiel. Vers le cinquième pot, le piano commença de se conduire avec extravagance. En proie à un surnaturel vertige, il se mit à tourner sous les yeux des buveurs. Et les quatre spirits demeurèrent un moment silencieux. Buvons, cela ira mieux. Il a raison. À chaque rasade, le poète qui, environné d'une vapeur de tabac, semblait un jeune dieu, trônant au sein des nuées, murmurait un bref commentaire nologique. Voilà les bienfaits de l'instruction obligatoire, dit le peintre. Et il ajouta, sans la moindre apparence de logique. Quant à moi, je peins dans la pâte. 45. Bibliothèque de Guignol. Du fond de la cour, on entendit le sifflet du laitier et des bertes tintèrent sur les dalles. Une cloche frappa toute proche. D'autres lui répondirent au loin. Dans le poêle, un feu corps. Dial ronronnait. Alors le poète se tassa dans un coin de l'ottomane qu'il occupait et il parla. J'ai bu de tous les vins. J'ai tâté les plus fins et subi les plus raboteux. Je crois que je les connais tous, depuis, le vin des deux mois. Celle, que j'ai bu à Frontignan même, jus. Copousse au crime de Suresne, que l'on verse derrière les barricades, aux mâcheurs de cartouches, les jours d'émeute à Paris. Vous êtes cependant jeune. Sans doute, mais j'ai voyage et je sais. Boire. Boire est un art en décadence partout. Même à Lyon. Oui, messieurs, chez nous. N'ai-je pas, hier, entendu dans un restaurant un piètre qui demandait du Chianti. Et on lui apporta publi. Quémon cette fiole ronde, tressée de paille, où j'y ce vin molle et fade comme une barcarolle. Napolitaine. Fort juste, interrompit le peintre. Ajoutez. Seulement, pour soutenir votre comparaison. Que ce vin-là est aigre, obtus, épais, quoique. 46. Le mémorial de la rue Sainte-Hélène. Sans corps, ainsi qu'un nudé monsieur Luc Olivier. Merson. Quant à moi, je peins dans la pote. J'y consens. Donc, cet inconnu osait en public, s'abreuver d'un tel vin, alors que, sous ses pieds, dans la cave même, se prêt seyaient les plus nobles et les plus authentiques. Des crus de chez nous. S'il y avait une justice, on eût, sur le champ, arrêté l'auteur d'un acte que j'assimile à un attentat à la pudeur. Ce buveur de Chianti n'était-il point en exhibition? Nist? Non, on ne sait plus boire. Est-ce pour nous, cher ami, que vous dites ça? Non, c'est pour tout le monde. Ce ME? Mais qui prétendent déguster les vins le font? Sans art? Balzac dînait un jour avec ce Green. Galet de Chopin. On apporta du Clos Vougeot. Chopin prit son verre et but avec lenteur, puis sourit, l'air enchanté. Tu n'aimes pas le vin, dit Balzac. Moi, quelle idée! Non, reprit avec force l'auteur de la mets. Son Nucingen, non. Pour goûter le vin, on prend son verre, on le met devant la lumière. Puis on le respire, on le flaire. Et puis, on le repose sur la table. Voilà. L'art, mes amis. Le reste, c'est sécher du vin. Moins 47. Bibliothèque de Guignol. C'est une fonction de buvard. Regardez le vin. Le sentir, regardez surtout, c'est ce qui élève l'homme au-dessus de la batte. Il prit son verre sur le piano et, solennel. La soie, le feu, la pourpre, les lèvres des femmes, le sang des héros, l'adieu du soleil. L'or fin des matins d'avril, le jeu lumineux des saisons, les ombres de l'enfer, voilà ce que voit un poète au travers de sa coupe. Voilà ce qui est beau, messieurs, boire avec l'œil heureux. Garder avec le gosier. Un beau titre de livre, dit Canechos. Près du larynx. Cela rappelle l'oreille sur le cœur de Monsieur Alphonse Séché, chevalier de la Légion d'honneur. C'est aussi un beau motif cubiste, ajouta Josserand. Quant à moi, je peins dans la pâte. D'ailleurs, si on buvait toujours avec les yeux, les membres de la Ligue anti-alcoolique nous foutraient la paix. Ne raillez pas. Les bovins, c'est une palette que l'on se pose sur la langue. 2. Quelle page décorative le vin nous illustre? La poitrine. Quel ton, quelle arabesque, quel style? J'ai bu des Ingres, j'ai bu des Corot, j'ai bu des Cézanne. 0 symbole, aux correspondances. Regardez, ce fleuri n'est-il pas rustique? 48. Le mémorial de la rue Sainte-Hélène est vivace comme les paysans du Rhône qui l'ont foulé. Vraiment, demanda Canechauve, prétendez-vous connaître le vin rien qu'à le regarder? Certes. Ça, c'est fort. Il y eut plus fort. Le chevalier de Boufflers prétendait, lui, qu'un véritable connaisseur râpé précis le vin rien qu'au son. Au son? Oui, monsieur. Au bruit du vin tombant du flacon dans le cristal, il distinguait, les yeux bandés et la main sur les fausses nasals, le médoc du Richborg. Quant à la vue, c'est avec un peu d'entraînement, beaucoup plus facile. Le Malaga est louche comme un calcul de Ruffian, l'Alicante léger comme le Chandé. Calfa, le Grenache est sournois, le Madère subtil, le Johanniberg farceur, le Turquem sentimental, le Porto hableur, le Malvoisi. Erreur soute. Mais nos vins, à nous, ne se ressemblent. Il pas? Non. Ainsi nos blancs, le Lunel fait penser au matin de l'été languedocien, l'Arbois est pareil aux crêtes blondes du Jura et le Vou. Vrai relate la clarté même des ciels de tout. Rennes virgule. 49. Bibliothèque de Huguignol bar obliqui. Il s'arrêta, soupira et reprit. Que de vin? Et comme on désire vivre vieux pour bien relire ce classique. Connaissez-vous le quart de chaume?
Non.
C'est la fleur des treilles d'Anjou.
Et là?
Clarette, le jurançon, le saumur, le saint.
Pédret, le cécel, tout petit vin, comme.
Disent ces imbéciles que l'on trouve sous les
tables avant qu'on ait commencé de boire pour
tout de bon.
Et nos vins du Rhône, ceux qui
poussent dans le grand vent du fleuve, depuis
le château neuf du pape, qui est la fête en sceau.
L'ayez des vieux murs roux d'Avignon, jusqu'à
nos chers enfants de Beaujeu, sans oublier.
N'est-ce pas, la côte rôtie, mais saluons.
Très belle ombre ardente et cramoisie de
l'ermitage, ce vin d'huile et de rose parfum.
Mais, qui garde la chaleur des derniers galets
de Provence.
Livens nos verres avant de
boire, c'est l'antique sagesse, et que longtemps
nous puissions jouir des fêtes de la couleur à
travers les flots du Bourgogne, roi des vins.
Honorons les sœurs romanées, déesses jumelles.
Les, filles d'Apollon.
Est-ce que vous avez réellement bu de
tous ces vins, demanda Canéchor.
Et d'autres.
J'ai bu du Tokaï, du Lagri.
50.
Le mémorial de la rue Sainte-Hélène.
Ma Christi, du Samo, du Constance, du Lep.
Sac, du Tenedo.
Mes compliments, vous avez reçu une
belle éducation.
Baudelaire ne riait pas de ces choses.
Il
professe toujours que l'amour du vin est une
d'R.E. la poésie, jaillissant vers Dieu comme une
rare fleur.
Au reste, j'ai eu parfois le goût
du bizarre.
J'ai voulu tâter des mélanges et
j'ai bu de l'hypocras, du télasomené, de
l'nogal, du bisrof, de l'conoléon, de l'no
mel, du sabayon, de la copelle et du vin
myrrhe.
Mais mon rêve serait de connaître les
vins antiques, qui coulaient des légendaires
pressoirs de Falru et de Tasso, ce massy
que et ce nostalgique sécube issu des veines
d'Aignes, quoi mieux timno carpi de pa. Helmit.
Lesbos.
Avons-nous une idée de ce que pouvait
être le Ahané, roi des vins, rex ipse faneux?
Dit Virgile.
Moi, j'en ai bu, dit le musicien.
Vous avez bu du fané.
Cela s'appelle maintenant le Caillasse.
C'est
un vin de liqueur que les mariniers turcs
cabotent le long de leurs côtes sur des saïques
à fanaux rouges.
Est-ce vraiment le roi des vins?
Le roi?
Quelle blague!
Pas même le Priya.
51.
Bibliothèque de Guignol.
Sipicule.
On voit bien que Virgile était dit Tiaï.
Midi.
Ce fameux vin que les anciens buvaient.
En se frottant l'estomac de plaisir, on le tirait
d'outre-puante et c'est le plus médiocre ripot.
P.
Ça, c'est la spécialité des anciens, c'est
maîtres bourreurs de crins.
C'est comme
le champ des batailles de marathon, un ring
de boxe, l'immense marathon.
Bravo.
Je vous approuve, au nom de
l'histoire simultanéiste.
Les anciens sont des
charlatans.
Moi, je suis pour les vins futurs.
Quoi?
Les vins futurs?
Que diable entendez-vous par là?
J'entends que nos descendants connaîtront
des crus ignorés de nos palais.
Or, Jean,
quête sur les possibilités de l'avenir.
Il me
paraît certain que nos fils feront provigner des
vins inédits, comme ils percevront des coups
leurs inobservés, des accords inouïs.
C'est
démontré.
Mais le poète s'était levé, dans le journée.
Sente, on vit se découper, sur les carreaux
bleu, sa silhouette.
Il tendit son verre au matin.
À toi, Bacchus, divin ouvrier des parts.
Fomes et de la couleur, à toi, qui conduis sur
les coteaux le cortège rieur des vignes ronzées.
52.
Le mémoriale de ta rue Saint-Hélène.
Qui suis,
plein d'une éternelle jeunesse, le char. Des vendanges dans la fête des derniers beaux jours. À toi, Dieu blond, couronné de pampres. Et dont le tir se commande au royaume de la fantaisie, à toi, qui donne aux sages la force et aux forts la sagesse et qui ne demande des aux hommes, pour prix de tes bienfaits. Que de trinquer en chantant, dans l'innocence de leurs désirs. Le peintre se levait à son tour. Oui, s'écria Théil, à toi, Dieu de beauté, qui visita le grand Léonard et consentit à poser son chef-d'œuvre un. Moins tu naquis deux fois, dit plus simplement l'historien, tu naquis deux fois, symbolique. Égobol. Les hommes célébraient en ton nom. Non le culte phallique, s'associant ainsi aux joies de l'amour et au mystère de la pro. Création. On t'offrait l'obélias et toi, fils de ceux. Mêlé, chevauchant noblement ta cuve, tu levais au ciel une grappe pareille en sa couleur à un sombre nuage baigné de lune. Tu écoutais la thiasse des bacs chantes conduites par Silène. Tandis que se roulaient les vignerons, nus et bariolés, dans la terre végétale. Évoé. Moi. Canet Chauvre, chef de l'école des historiens simule. Tanéiste, je bois à ta prospérité. Messieurs, dit Pat au cul, je ne pose. 53. Bibliothèque de C. Guignol 3. Cède pas votre faconde. Mais je sais jouer du piano et je vais improviser une bacchanale. Dans le style de Maurice Ravel. Le pléiel, grand ouvert, gronda. Dans la chambre voisine, logeait un prof. Sœur de morale, réputée dans tout Perrache pour sa connaissance raffinée des eaux de Vichy. Il frappa contre la cloison. Mais Dioniso possédait ses enfants. Ils prirent leurs verres, les vidèrent encore et ils entonnèrent en un cœur puissant, où dominait le si naturel du musicien, le fameux refrain de l'éléphant. Trempé dans l'huile, tandis que le professeur de morale, martelant les plinthes de coups de pied, vociférait de son côté. Allez-vous vous taire, fils de salaud. Enfant de cochon. Taisez-vous, laissez d'or. Mire les gens. Ah. Taisez-vous, sacré bon Dieu. De bon Dieu de saloperie de bon Dieu de bois. 54. 7. Récit de Josserand. Le peintre. Le soir où cette étrange chose m'advint, j'avais passé mon temps chez moi, dans mon atelier silencieux, en proie à la sombre mélancolie des octobres lyonnais. C'était un soir, après une de ces journées de pluie grise sur les pavés et les fleuves, où tout dans la ville sent la tristesse, la rentrée des classes, les premiers imperméables, l'ouverture de la saison d'opéra, les manilles sans fin dans les cafés tout éclairés. Chez les mares, champs de couronne, on préparait la toux. Saint. Géré, ce soir-là, dans le steppe désolé. D'une solitaire mélancolie. En vain, j'avais tâché de m'égayer par la lecture d'un roman fantaisiste, maritime et mortuaire, ou même Francis Carco et Pierre Macorlan avaient juxtaposé les ressources de leurs jumelles. 55. Bibliothèque de Guignolène. Frivolité. Les mystères de la morgue, si des eaux pilant qu'il s'avérasse, n'avaient pu me tirer de mon crève-cœur. Et je demeurais songeur, la tête entre mes mains. À quoi pensais-je? Je ne sais plus, lorsque, levant les yeux vers ma fenêtre, je vis, collé au carreau, un visage. Il était blanc mais plus blanc que n'importe quelle blancheur humaine ou cadavérique. Point et ce visage fixait sur moi les regards de deux gros yeux immobiles. Vous dirai-je que j'habitais alors une manne sarde, au septième d'un immeuble de Canut. Et en surplomb du quai Saint-Clair, la façade ce drossier nu, lisse, abrupt, sans la moins. D'ailleurs, eux saillit. Jugez de ma surprise et de mon effroi à la vue de cette face couleur d'œuf, qui s'aplatissait, dans une effrayante immobilité, contre les vitres de ma fenêtre. Je demeurai moi-même immobile sur ma chaise, frissonnant, incapable d'un geste. À la fin, je baissai les yeux, puis, après un long moment, je les rouvris. J'osai regarder de nouveau. La tête était toujours là, blanche et fixe. Où trouvais-je la force de me lever? Il était tard. Je n'hésitais pas à fuir mon domicile. Je ne suis pas peureux, pas du tout. Mais je sortis à reculons, sans éteindre ma lampe. Et je gagnai la porte. 36. Le Mioriale de la rue, Saint-Élenu. Il eut jeune. Vérité. Je ne sais, au moment où je me glissais hors d'eau la chambre, il me sème. Blague la tête se retirait, elle aussi. L'espace reparut et, à travers la fenêtre, je crus revoir le sombre ciel, dont 1000 étoiles marquaient de clous d'argent les mailles glacées. Dans le corridor, ce fut bien autre chose. Je me sentis suivi. Des pas mous allaient derrière moi, au rythme de ma course. Je m'arrêtai. Les pas s'arrêtèrent. Je repartis. Le même pied flasque frappa le carrelage du couloir. Obscur. 4 à 4, en proie à l'épouvante, je dégringolai l'escalier. Le sang-froid extraordinaire, que donne toujours l'extrême terreur, me secourut. Je parvins tout de suite à ouvrir la porte d'allée et je me jetai dans la rue. Je me retrouvai assis sur le trottoir, tandis que la porte, que violemment, j'avais tirée se ferma avec le bruit d'un coup d'eau canon, suivi par le choc plus faible du heurtoyer qui retombe bête sur son appui. La rue était calme, humide, déserte. Autour de moi, rien, personne. Un réverbère jaillit. C'est, noir et grêle, du rond jaune de sa propre clarté, ainsi qu'un jet d'encre au centre d'un bassin d'or. Au loin, le bitume, noyé de pluie, étalait une ébène miroitante. 57. Bibliothèque de Aguignolène. Je partis, bien décidé à passer la nuit dehors. La vue d'un agent me réconforta. Il se tenait debout sous la marquise d'un magasin. Pour rien, pour satisfaire mon envie de parler, pour reprendre mes esprits, je lui demandai mon chemin. Il me l'indiqua, en m'observa d'un œil doux, soupçonneux et perspicace. Je suivis des rues, grimpai des escaliers, en descendis d'autres. Je pris des venelzines, des cises, côtoyant des murs, des grilles, des palissades, des terrains vagues. À la fin, je me perdis. Et comme je retournais, cherchant ma route, je vis devant moi un fantôme. Oh! Pas du tout le fantôme des histoires de Point Grande-mère, pas le revenant à drap de lit. Farceur et macabre avec sa tête de mort éclair. Ré en dedans comme un lampion et ses rotules en castagnette. Ce n'était pas non plus un spectre fait de vapeurs et de spirales gazeuses comme en évoquent les spirites. C'était un homme, tête nue, le regard dur et lointain. Son visage, sa barbe, ses vêtements s'étaient couverts d'une espèce de limon gris. Il portait sur le bras un suaire soigneux, semant plié, comme un pardessus. Sous un bec de gaz dont le vent secouait la flamme, il 58. Le Mémorial de la rue Sainte-Hélène attendait Cela se passait quelque part, dans ce coin patriarcal et quasi-rural de notre ville, qui s'appelle le Clos Bissardon. Pas un être vivant. Des masures closes, somnolentes. À perte de vue, de murs troués de poternes bleues, tachetées d'ombre dansante et coiffées d'arbres nus. Chose surprenante, je n'avais plus peur du tout. Je le reconnaissais, cependant, ce visage de cire blafarde. C'était celui qui, tout à l'heure, me guettait dans ma chambre. Elle me regardait sans malveillance et j'allais lui adresser la parole quand, levant sa main décharnée, il me fit signe de le suivre. Et je le suivis. Nous prîmes en silence des ruelles tortes qui longeaient des jardins. Après une assez longue marche, silencieuse et rapide, nous arrivâmes devant une villa. Le portail était ouvert. Une odeur de terre mouillée et d'huile croue qui remplissait la maison où nous étions entrés. Une porte s'ouvrit et je me trouvai dans une vaste chambre, au milieu. Au milieu de statues. Un congrès de statues. Une assemblée lunaire de tous les lions. Nés fameux, descendus de leur socle. Je les voyais là, tout, assis en cercle autour point d'une. 59. Bibliothèque de Guignolin. Table chargée de bouteilles et de paperasses. Côte à côte se tenaient Burdeau et Ampère. Jacquard, hochant sa tête de vieux couenque, écoutait une histoire que lui contait le sergent Blandan. Celui-ci retenait son flingot contre ses genoux et rattrapait, d'un geste machinal, ce sacré chaco qui s'obstine à fuir son crâne. Puis c'était, au bout de la table, Poisey Vox et Gaspard André, Philibert Delorme et le pro. Fesseur 011 premier, Jussieu et Simon Maupin, sous Larry, Mourguet et Pierre Dupont. Quant à celui qui m'avait piloté jusqu'en ces lieux, je le reconnus aux lumières, c'était Jean Kléber. Gère, l'homme de la roche. Voici, dit-il d'une voix rude et comme le choc d'un marteau sur la pierre, le jeune homme dont j'habitais la chambre en I7.3. Tous me regardèrent. Pourquoi, dis-je, m'avez-vous amené ici? Pour vous exposer nos revendications, dit Burdeau. Et sa voix était, si je puis ainsi parler, d'un timbre à la fois tombal et oratoire. Vous voyez ici les membres du SSL, ou syndicat des statues de Lyon. Que réclamez-vous, sculpture conscien? Taisez organisée. Rien que de légitime, mais beaucoup de 60. Le mémorial de la rue Sainte-Hélène. Chose. D'abord des parapluies. Notre climat est changeant, l'averse abonde au ciel Lyon. Nay. Et cette eau qui nous benocie le cotivet, acheva en riant le pipa Mourguet, avec l'accent de son descendant neige tozer. Ah. C'est en beau. Conan. Ce n'est rien, nom d'une giberne, dit Blanc. Dan avec un bruit d'airain, l'ennui, c'est de demeurer toujours à la même place. Je les ai assez vus les clients de la ficelle. On a des fourmis dans les jambes, vous savez, à force de rester là planté sur des piédestaux comme des matous au bord d'un toit. Je demande à changer de garnison. Je vous mande, monsieur, un placet de la même manière, dit Coustou, qui parlait un lent gage désuet, ainsi que sa perruque. Notre état mérite commisération. Il n'est point de degré. Du médiocre au pire, a dit monsieur Despréau. Le médiocre, monsieur, c'est de vivre sans femme. Pourquoi n'existait-on pas à Lyon des statues à l'image des déesses et des nymphes? PHS. Mais, dis-je, vous logez précisément à côté de quatre sirènes. Les sirènes ne sont pas des femmes, ce sont des monstres, comme, harpies, centaures. 61.
Bibliothèque de, Guignol. Ressins et Gorgones, dit Philibert de Lormedin.
Ton docte est cérémonieux.
Mes empères, frappant la table de son poing.
De bronze, s'écria que les vivants étaient deux.
Fameux couvons qui le laissait, lui, l'inven.
Teur de l'électrodynamique, assis dans un
fauteuil de métal, en plein air, les jours
d'orage.
Jean est, dit-il, le poster comme du pâté.
Deux fois.
Et il s'enfonça dans une explication météoro.
Galvanique, parla du positif, du négatif, de
l'arc voltaïque, du carreau étincelant, de l'élec.
Trophone et du paratonnerre.
Moi, dit Philibert de Lorme, je veux Nabi.
Terre l'hôtel de ville.
Je suis las de séjourner.
Sous une pissotière point.
Que dois-je dire, proféra Burdeau, moi.
Qui suis condamné à des poses de Cicerone II.
Vain ce ridicule petit palais Bourbon.
Écoutez, dit soudain l'homme de la roche.
L'oreille tendue.
Des pas se rapprochaient.
La porte s'ouvrit.
Je vis entrer une espèce de petit maître en tri.
Cornes et cheveux poudrés.
Son habit violet.
Brodé d'argent, recouvrait un gilet broché haut.
Dessin de Philippe de la Salle.
Il portait, en
outre, une culotte de velours ponceau et des
62.
Le mémorial de la rue Sainte-Firmine.
Souliers à boucles, et il semblait, en marchant,
danser une gavotte.
Salut à la noble assemblée des chefs
d'œuvres et autres.
Et il fit tournoyer devant les chandelles-sons.
Chapeau à plumes de casoar.
Bonjour, petit chinard, dit Coustou.
Avec curiosité, je regardais le fantôme, pétu.
L'honte de celui qui avait taillé tant de merveilles.
Il ne parut guère se soucier de cet examen, ni
mes mots s'apercevoir de ma présence.
Ce que je vis ensuite est à peine croyable.
Je vis Binard mettre bas son bel habit.
Après avoir, de ses poches, tiré des ciseaux et
un maillet.
Puis, il s'approcha de Simon Maupin.
Et entreprit de lui retailler la figure.
Le marbre volait en éclats, cependant que
Maupin continuait de parler.
Alors, chose
étrange et merveilleuse sous les traits qui
s'envolaient ainsi qu'une poussière de marbre.
Je vis paraître le visage de Félix d'Evernay.
Et comme le masque rigide de la statue se
fondait dans sa ressemblance, peu à peu la
voix qui parlait prit le ton noble et cordial de
sa voix.
Et Félix d'Evernay, s'adressant au concile
nocturne des Lyonnais en allée, leur parlait de
notre pays comme personne, sans doute, non.
63.
Bibliothèque de à Guignol.
Sus jamais parler et n'en parlera jamais.
Plus.
Je me levai.
Je m'approchai, lui vieil ami.
De mon enfance.
J'allais lui parler, saisir sa
main glacée, quand Cléberger, s'avançant, me
point frappa, d'un point furieux, au front.
Je saigne.
Tise.
Je sentis contre mon crâne le marbre de ma
cheminée et je m'aperçus que le jour entrait
dans ma chambre.
J'étais tombé dans mon
sommeil.
Un rêve bien curieux, dit le poète.
Je laisse à des autres le soin d'en chercher
la signification, répondit le poète d'un air
pensif.
64.
8.
A.
Jeunesse.
Moi, dit le musicien en regardant avec
perplexité le fond de son verre, moi je ne suis
qu'un gone, tout simple et tout rondin ne m'est
jamais rien arrivé d'extraordinaire, hormis
de
m'être fait chasser du lycée, puis du conservatoire.
Ce ne sont point là des exploits dignes
de figurer dans vos fastes.
Quant à mes autres Souvenirs, ils sont ceux de tous les petits.
Lyonnais.
Raconter. Rien de plus original que l'HES. Toire de tout le monde.
Bon.
Mes parents habitaient rue du Port.
Du Temple, ft l'angle de la place.
Des Jacobins. Au-dessus d'un bazar qui n'existe plus, mais qui, à cette époque, attirait par le luxe poli. Chrome de ses étalages tous les galopins des environ.
C'était, pour ce que nous lui demandions,
un quartier admirable, un quartier vieux, traîne.
65.
Bibliothèque de Devemenoï. Qui est pittoresque, tout en ruelle, en recoin.
Et en bas-port.
Il y a, dans ce coin-là, de mer.
Veilleuse traboulée, peuplée de gris noirés.
Creusée de recoins obscurs, qui remplissaient.
Notre enfance rêveuse d'une inlassable passion.
Pour l'aventure.
Il y avait, au coin de la rue de l'Ancienne
Préfecture, une grande vitrine de photographes.
Qu'illustraient des portraits de ténors,
tout.
Accoudés à des fauteuils de velours.
Au milieu.
Deux, se dressait Boudouresque la basse,
ses longs cheveux jetés en arrière,
le nez chaussé.
D'un binocle, le corps enveloppé d'une pelisse à
col de loutre.
Ce portrait, de grandeur nature.
M'obsédait, le regard du chanteur me suivait.
Dans tous mes jeux.
D'ailleurs, les autres images.
M'attiraient, elles aussi.
C'est Faust, c'est Raoul.
De Nangy, c'est Arnold, c'est Eléazar, c'est Vesco.
De Gamma, ces gens de Leyde faisaient partie.
De mon existence, tout comme certains omnibus.
Jaune qui, sous un globe de verre, servait d'en.
Saigne à un restaurant voisin.
C'est peut-être en regardant ces portraits que
se forma ma première vocation, celle du théâtre.
D'ailleurs, on me faisait toujours paraître dans
les scénettes aux distributions de prix.
Mais les
succès d'estime que j'y remportais ne satisfaits.
C'est point ma jeune ambitine.
Il me fallait plus.
66.
Le me 1100 annual de 4.A.
Rusmulen.
Et mieux que les bravos complaisants de PA.
Rennes sans dimanche.
Je voulais conquérir la
sentiment et l'admiration de mes camarades.
Les gamins du quartier.
L'hommage de votre génération.
Sensément.
Et ce fut ce qui me décida à
monter un spectacle de gala qui fut donné,
pour la première et d'ailleurs unique fois,
dans
la cour d'un boulanger, père d'un gonne de la
bande.
Ce gonne n'était ce point point.
Si, passons.
Faut-il vous raconter cette
histoire?
Parbleu.
Alors, un instant.
À votre santé.
Astérisque.
Astérisque astérisque.
Un beau dimanche de juillet IS9G,
toute la
marmaille de la rue Ferrandière et des rues
circonvoisines fut conviée,
par les soins d'un
comité théâtral,
dont Monsieur Vial,
de Vez,
ne fait
ses points partis,
mais qui n'en était pas moins
animé des meilleures intentions.
Le spectacle commençait à 2h de
l'après-midi, dans la cour de la boulangerie.
La représentation se composait de 3 parties.
Musicale, plastique et littéraire.
6/
Bibliothèque de à Guignol.
La musique, c'était un air de violon exécuté
par un gonne qui savait tout juste monter la
gamme et encore sans faire les bémols et
en petafiriant les dièses.
Mais son violon
du passage de l'argue était verni comme un
carrosse et rouge comme un jambon.
Il avait
coité 25 francs et ce somptueux chef
d'œuvre de lutherie suffit,
comme bien ça sait,
corde,
à assurer le succès du jeune virtuose.
La seconde partie comportait un intermède.
2. Tableau vivant.
Pour la réalisation de cette merveille esthétique,
nous avions fait montre d'une habileté
qui confinait au génie.
Il s'agissait de Rickans. restituer les scènes les plus fameuses de la mort du duc de Guise, les adieux de Fontainebleau, le baptême de Clovisé. Cela, sans autre ressource que des ustensiles empruntés aux cuisines et garde-robes familiales. Le tour de force fut l'apparition de Charles Magne. L'empereur se montra, le chef couvert d'une passoire en fer battu, le visage encadré d'une barbe fleurie, qui sentait le crin végétalé. Le corps enveloppé d'un rideau à fleurs jaunes. Du plus apiolonté fait. Il ne tenait à la main ni le sceptre, ni le globe crucifère, mais une canne à épée en rotin. 68. Le mémorial de la rue Sainte-Hélène. Le fils de Pépin le Bref céda le plateau à un petit caquenano qui récita un monologue tellement long que, devant les protestations de l'auditoire et des coulisses, il s'arrêta courir. S'enfuit en reniflant ses larmes. Après cela, on ne baissa pas le rideau, pour un tas de raisons, dont la première était que nous n'avions pas de rideau. Pas de rideau, pas de rampe, bien plus fort que Gémier, je vous dis. On jouait dans le décor naturel, comme Madame Leblanc au Maeterlinck, parmi les ruines de Saint ou Andrille. Seulement, au lieu de chercher, comme le fit cette actrice, le cadre idoine à la pièce de son choix, nous autres avions fait bien mieux. Notre pièce, dont j'étais l'auteur, avait été écrite spécialement pour le cadre. À gauche, côté jardin, il y avait le bûcher. Autrement dit l'entrepôt des fagots paternels. Côté cour, c'était une grille qui, avec un peu d'imagination, pouvait évoquer un château féodal. Au fond, grimpait un escalier de bois blanc qui conduisait à la chambre d'Osmitron. C'était un chalet suisse. Les fagots, disposés avec art, figuraient une forêt touffue. La pièce que j'écrivis pédure l'emploi de cet escalier, de cette grille, de ces fagots, ne. 69. Billiel totisait Keren, Guignol. Redouterait point, je le dis sans fausse mode. Taille, d'être comparé au plus pur chef d'œuvre de la littérature dramatique. Elle s'intitulait Les Brigands. Un certain Schiller avait autrefois fabriqué une tragédie sous ce titre. Mais outre que ce Wurtembergeois n'était, après tout, qu'un Bosch, ces brigands ne sauraient rivaliser avec les miens. Le T.R.A. Gic de mes brigands à moi était intégral. Tout le monde mourait, aussi bien le traître que le héros sympathique, le bûcheron du premier acte comme le noble comte du troisième, les uns à coups de stylet, les autres sous le feu des carabines Oreca, celui-ci par le poison, celui-là sans que l'on sache pour quoi ni comment. Les gens de la maison écoutaient aux effrénés. Très. Du haut d'un balcon, la concierge et son chat prenaient des airs espagnols. Les petits gans, assis sur des caisses et des sacs de farine, suivaient mon ouvrage, la bouche ouverte et un doigt dans le nez. Mais, au der niérant, les grands, ceux de mon âge, Rika, naît, dévoré de jalousie. L'un d'eux se fit cordonnier et il s'est vengé, plus tard, en me faisant des grolles trop étroites, un autre devint huissier. Mais revenons au spectacle. Il se déroulait, en somme, sans incident. Le mémorial de la rue Sainte 41 Hélène. Je savourai mon triomphe. Bien entendu, je m'étais attribué, à la façon de Molière et de Sacha Guitry, le meilleur rôle. J'étais un jeune et hardi cavalier, qui a comme plissé des travaux héroïques dans une forêt de fagots. J'éteignais l'incendie d'un feu de Bengale. Je me précipitais au secours d'un bûcheron attaqué par les brigands. Je ne pouvais malheureusement le sauver, non que ma valeur n'y suffit point, mais parce que nous avions besoin de l'acteur qui jouait le bûche. Ron pour en faire un gendarme au deuxième acte, il fallait donc qu'il mourût. Et moi aussi je devais mourir. C'est même mon trépas qui devait servir de clou au spectacle. J'expirais sur l'escalier du chalet suisse, en allant porter à Napoléon les trésors que lui envoyaient des princes siciliens. À cet instant, un calabrais barbu me frappait dans le dos, naturellement, et je tombais. Étendu sur les marches de l'escalier, je commençais d'agoniser en beauté, quand d'une fenêtre du second, un farceur me lança un seau d'eau sur les fesses. Alors les gans du quartier assistèrent à ma résurrection et même à mon ascension. Car je point grimpais jusque sur le balcon de la concierge pour injurier avec plus de véhémence le B.O. 71. Bibliothèque de Jean G.X. 01. Tiens, le philistin, le pied plat qui poussait si loin l'irrespect de l'art. Et il rigolait, le lagi. Il rigolait en préparant un second seau d'eau qui mit fin à la représentation, heureusement presque terminée. Et voilà, dit Pat au cul, en terminant. C'est, dit Canezou, une véritable histoire. De petits gones. En avez-vous d'autres? D'un genre bien différent, si vous voulez. J'ai donné, il y a un mois, une audition de mes œuvres chez des bourgeois de la presqu'île. Des vrais, des purs. Drôle d'aventure. On avait parlé, le mois, à une espèce de mécène de pelage point noir, abonné des conservis. Kawoski est membre de la chambre de com. Merce, et l'on m'avait à ses yeux représenté comme le futur Berlioz. Cet Aristarque habite, quelque part derrière l'abbaye des Nez, un vaste et sombre appart 7. Manque embellissent les chefs d'œuvre de tous les peintres lyonnais morts de faim. C'est dire qu'il possède une fort belle galerie. Point achète-t-il des tableaux aux peintres en train de mourir de faim, demanda Josserand. Cet non. Il aime la peinture, mais il n'en coûte. Rage pas les soulographes. Et puis, il déteste les pauvres tant qu'ils sont vivants. Bref. 72. Le mémorial de la Ave Sainte-Hélène. Cet aimable philanthrope offrait une soirée mue. Sicale à ce qu'il appelle les gens de son monde. C'est-à-dire un conglomérat d'ecclésiastiques. De soyeux en conserve, d'anciens notaires, de croque-morts et de courtiers en tableau, avec leurs femmes, cela va de soi. Il a coutume de le faire tous les ans, et, chaque fois, les régale d'un musicien inconnu et de petits fours attardés. Au reste, notre homme se pique de goût moderne comme tout vrai réac. Gianne, c'est qu'il lui avait donné mon nom. Quoi qu'il en soit, après de brefs pourparlers où je vis fort bien ce qu'attendait de moi ce glorieux Médici, il fut décidé que je ferais les frais de sa petite exhibition. Vous êtes, m'a-t-on dit, de la dernière école? Je veux du nouveau, vous savez. Soyez sans crainte. Le jour venu, je m'apporte. Ah! Ces gueux. Les, ces gueules de cagots excités, de parisi. Des doucereux et d'affameurs satisfaits. J'étais venu, je vous en donne ma parole, sans la moindre arrière-pensée, je me promettais de jouer ce que j'ai écrit de moins méchant, qu'elle. Qu'est-ce sonate qui n'eût coûté à Monsieur Sélévard? Lui mémo que quelques-uns de ses cheveux coriolanesques. Mais quand j'ai vu cette noce. 73. Bibliothèque de Guignol. Accent grave Thomas à trois pas de mon piano, écoutez. Ça a été plus fort que moi. Rhomboèdre sur le mode mixolydien, AN.
Non, sais-je froidement.
Et, dans le silence d'une boréale stupeur.
J'ajoutai, avec un sourire.
Sonatine cubiste, dédiée à Pablo Picasso.
Ah!
Mes amis!
À la troisième mesure, un accord de quatorzième souleva de son fauteuil.
Une soit de cachalot femelle, au fanon.
Gluant, qui se dressa et se rassit sans un cri.
Pour demeurer prostré jusqu'à la fin de mon
improvisation.
Est-il besoin de dire que j'improvisais et à
tour de bras,
je regardais mourir la joie sur la face de tous.
Ces gorilles en liesse.
Et, sans désemparer, je
hurlais, rhapsodie en pyramide tronquée, écrite
pour piano et chant sur les lois de la géométrie.
De cette voix, que vous avez bien voulu
trouver belle, j'entonnais ma rhapsodie, mais fort.
C'est de rendre expressifs ces mots, soulignés
au pléiel d'une chromatique ascendante extra
sonore, la base de la pyramide primitive et
la section faite par le plan sont des trapèzes.
Lorsque l'amphitryon qui, jusqu'alors,
74,
le mémorial de la rue Certhef.end,
m'avait regardé fixement sans un mot semi,
à beugler,
moins assez, assez,
qu'il la ferme, cet indie
gêne, ce salaud de cubiste chez moi, chez moi,
qu'on le foute à la porte.
Et alors, interrompit le peintre.
Alors, je me suis retourné et, les mains
sur les touches, je pris un air très enga.
Géant.
Cet air ne vous plante pas, monsieur.
J'ai
pour vous servir un adagio tubulaire, anal.
Gros du fil accent grave plomb, une synchronie en la dièse.
D'après un carton futuriste.
Alors l'assemblée s'est levée d'un seul bloc.
Trois types s'avancèrent vers moi, les yeux
fous, les poings serrés.
J'ai fichu le samp, en
abandonnant un recueil de sonates de Mazart,
sur lesquels ces pézouilles se sont acharnés,
en hurlant à la mort.
Moins c'est vrai, ça, demanda Canezou.
Ça pourrait l'être, riposta le musicien,
avec une grande simplicité.
75.
9.
Geneviève de Baraban.
Ou.
Récit de Canéchor.
J'avais une maîtresse.
Elle s'appelait Gêne.
Vieve, et c'était la femme d'un médecin des
Brotteaux.
Après main précédent érotique,
je rencontrais cette belle, plantureuse, matée,
nelle et reposante amie en qui s'acheva mon
amoureuse adolescence.
Point cette pomonée coup.
Rane ma jeunesse comme la médaille Mili.
Terre couronne la carrière d'un sous-officier.
On ne savait rien du mari, hormis qu'il était
cocu, agrémenté d'une barbiche en fer de
lance, qu'il s'occupait d'espéranto, de Philadelphia,
Telly et de spiritisme et qu'il allait, chaque
jeudi soir, rejoindre un cœur de sac à bière
dans une brasserie des environs de la Bourse.
Ce Bovary l'était comme l'autre, avec une
discrète chronicité.
Son infortune s'éden jugale
figurait dans le répertoire des connaissances.
77.
Bibliothèque 2, Guignol.
Nécessaire aux étudiants de première année.
Au mémo titre que les rudiments du pack.
Farte de culotter les pipes et l'adresse des cafés.
Où l'on peut boire après l'heure réglementaire.
À la condition de passer par l'allée.
Pieuse et chaude, Geneviève partageait ses
ardeur entre les sermons du RP de chat.
Banzer les divans des ateliers.
Elle n'aimait
que les artistes et les aimait jeunes.
Elle est peu
t'es à leur fréquentation et à leur connaissance.
Biblique une assiduité de spécialiste.
Elle habite
t'es aux confins de vie urbaine.
C'est
pour
quoi on l'avait surnommée Geneviève de
Baraban.
Depuis 12 ans, l'épouse légitime du doc
Turpanet se parait de ses atours pour faire
l'amour avec des gaillards qui sentaient la térébenthine et le tabac. On l'avait surnommée la galerie, et, au vernissage du salon d'automne, on s'amusait à dénombrer les corps dont s'ornait la médicale ramure de son mari. Pourquoi peintre? Pourquoi palais? Apprenti bandagiste, les jeunes timbelieuses, les aspirants canneleurs ou les bourgeons d'Avaux. Keps? Elle-même n'en savait rien. Ça s'était trouvé ainsi. Point au demeurant, belle-fille, gourmande, écho. Nomme, superstitieuse, maternelle, de chez eux. 78. Le mémorial de, la rue Sainte-Catherine à Anne-Hélène. Ferme, avec de grands pieds. Une vraie lior. Naise. Je gossitais dans ses bras des voluptés qui fleuraient la lavande du père Tasse. La régue. L'arité de ses étreintes se liait au rythme de la vie locale. Malheureusement, ses ivresses se complaient. T'étais d'un cours familier de morale en action. La belle Geneviève avait, outre la croix, druple rondeur de ses charmes copieux, une cinquième bosse, qui était celle de l'éducation. En remettant son corset, elle sermonnait ses amants. Elle aimait à prôner les vertus à Ensers. Trails de la cité, le vieil institut mercantile des ouvriers en soi et les moyens de parvenir. Je l'écoutais en fumant ma pipe. Je suis de nature patiente. Los manifestations les plus saugrenues des dames après le péché me trouve sans révolte. Les pleurnicheuses. Les repentants n'offusquent point mon animal. Tristesse. Seules me paraissent redoutables les amples et limitrophes amoureuses qui presque toutes raffolent de jouer à la petite fille. Bref, les homélies en culotte de Geneviève me rasaient à l'infini. Je m'y résignais en récupérant mes moyens. Un soir je logeais alors dans une chambre meublée de la place Raspail, j'écrivais pour 79. Bibliothèque de Guignol. Le compte d'un bouquiniste du quai de TAL, spécialiste de ce genre de marché, une étude d'histoire locale intitulée La pêche au chavasson. Dans les Eldes de la Mulalière à l'époque Méro. Vingienne, 451 à 752, étude que devait signer un fabricant du Griégien, avide d'insinuer son râle dans un fauteuil de l'Académie de Lyon, entre M. Basile Cubeny, auteur de L'histoire de Saint-Potin, et M. Pierre de Gobille, le fameux numismate de Tassin la demi-lune. Je suais sur mon labeur, animé d'une same. Brigeois, je venais d'écrire, il n'est pas serre. Tint que Chilpéric, roi fameux pour sa passion. De la Gaule, F. accent grave T. le parrain de la canne accent grave pêche. Cependant, on tient pour assuré qu'il fut l'artisan, par capitulaire dont l'honorable M. Rigotte, bibliothécaire de Pont de Cherui, a récemment communiqué le texte et la traduque. Sion juxtalinéaire qu'il réalisa, disons-nous, la fondation des parfaits pêcheurs du Rhône, laquelle prit tout d'abord le nom de guilde des Filochons. On frappa. C'était Geneviève, mais si extra ordinairement émue qu'elle demeurait si laine. Séieuse. Elle se tint un moment debout, immobile, puis, se laissant tomber sur le lit, elle fondit en larmes. Son sein s'agitait comme 80. Le B bar oblique lieu Orial rue Sainte-Hélène. Un orageux océan et les plumes de son chapeau oscillaient comme de petits cyprès au grand vent de sa douleur. Elle put enfin articuler. Moins le docteur, elle désignait ainsi l'infortuné dont elle ornementait le front, le docteur. C'est tout. Il a trouvé une lettre, de toi. Je le connais. Il te tuera aisrement. Il est terri. Bli, tu sais, et viole. Que faire, mon Dieu? Que faire? Si j'allais offrir un cierge à Saint Expédie, je l'en dissuadai. Bien que fort emplâtré de l'aventure, je pris un air guilleré et fane. Pharaon, ton mari peut venir. Je ne crains pas les responsabilités. J'avais grand tort de dire cela. Je les crains. Niais, au contraire, les responsabilités, d'eau. Tant plus que, dans les affaires de femmes, le compte du responsable se solde généralement par des calottes. Hélas, il y a dans le cœur du plus pacifique des amants un D'Artagnan qui fait la roue. Il peut venir ton cornard, dis-je, le poing sur la hanche et le cœur bouleversé d'effroi. Il trouvera à qui parler. Geneviève renifla ses larmes. Ma jactance ne la rassurait pas, mais elle en éprouvait une. 81. Bibliothèque de Guignol. Sorte de chatouillement. Elle y trouvait point aussi une raison de s'enorgueillir. Et elle franchit mon seuil avec un port d'impératrice et un sou rire de gigolette. Quand je l'eus reconduite, je méditai sur ma position. Et D'Artagnan s'évanouit sur l'écran de mon moi intérieur pour muer en un fort anxieux canezou. De toute notoriété, le docteur Panet était un costaud. Sans doute porta-t-il, comme Sam Son, les sources de sa force sur son crâne. En tout cas, son biceps était à l'aune de Sarah. Mûr. Te voici, pensais-je, dans une agréable situation. Ce scanarel va prap, rimonta. Sommé. Cela t'apprendra, mon garçon, à chasser dans les alliés galants ou remises des serres morticoles. Et que faire? Si j'allais passer un mois chez mon oncle de mes yeux ou visiter les pyramides. Un pas solide ébranla le corridor. On heurta ma porte, j'ouvris, le docteur était devant moi. Canezou, pensais-je, mon pauvre Canezou. Ton pourvoi est rejeté. Je n'avais jamais vu mon rival. C'était une sorte d'ecclésiastique en redingote et chapeau rond. Il avait cet air d'en avoir deux qu'on ne. 82. Le mémorial de la roi. Sainte-Hélène. Trouve que chez certaines bourgeoisies lyonnaises, une figure qui suait l'hypocrisie, le viol et la dévotion, et on aurait su décider en leur égard. D'un s'il sortait d'un patronage catholique ou d'une maison de tolérance. Je m'efforçais de garder contenance. À qui ai-je l'honneur? Vous le savez, monsieur, me répondit une voix visqueuse. Je suis le mari de la paire. Sonne qui sort de chez vous. Je me tassai sur mes jarrets et, puisant dans mon inquiétude une espèce d'aveugle résolution. Acte que vous vouliez en venir, je suis à vos ordres, monsieur. Sans me répondre, ce lent personnage entra chez moi. Il s'assit d'autorité, tira de sa poche un porte-cigare, me le tendit et, ayant allumé lui-même un demi-londret, il me dévisagea. Jeune homme, reprit-il après un instant. De nous deux, c'est vous le comique. Mais je n'ai pas le cœur à rire. Autre chose m'amène. Je suis cocu et mécontent. Je vous répète, ripostai-je aigrement, que je me tiens à votre disposition pour. Allons, pas d'enfantillage. Écoutez-moi donc. Je suis cocu depuis que je suis marié. Étais-je prédestiné, ou ma femme? 83. Bibliothèque de Tété Guignol. Avec elle ça dans le sang. Je ne sais, et du reste je m'en fous. Mais je m'en fous, vous dis-je. Vous ou un autre ce me serait égal, si vous observiez Jeune homme, cette discrétion à laquelle m'ont habitué vos prédécesseurs.
Il me regarda sévèrement.
À Lyon, les maris qui se trouvent dans mon cas sont seuls à le savoir.
C'est le contraire de ce qui se passe ailleurs.
Vous n'avez pas la prétention de réformer des traditions locales et séculaires, je suppose.
Or, vous êtes de ces nigauds qui s'affichent en état de braconnage.
On vous rencontre partout.
Des lettres anonymes me renseignent et ce ne serait
rien si la chose ne devenait à ce point incongrue que mes amis se sont vus contraints
de m'en prévenir officiellement et solennellement.
Hier, vous étiez à la brasserie Thomas
Saint avec ma femme.
Mais, bon Dieu,
les rangs des vous lyonnais se donnent ailleurs.
N'avons-nous pas assez d'églises?
Saint-Bonaventure est assez réputé pour cet usage.
Vous êtes lyonnais?
Pur sang?
Et vous ne savez pas que, dans ce pays,
tout est toléré, hormis l'ostentation.
Vous ne?
84.
Le mémorial de la rue Serre-Térelaine.
Savez pas qu'ici, le vice c'est de se montrer et
que, chez nous, faute cachée est toujours par
donnée.
Il haussa les épaules.
Piqué au vif, je réplis.
Qu'est?
Comment?
Vous me reprochez ma loyauté?
Le courage de mes actes, cette attitude que?
Voilà les grands mots.
Je vous croyais
intelligent.
Et puis, en voilà assez, vous exigez.
Baisse ma femme.
Je ne l'exhibe pas, monsieur.
Vous la montrez, monsieur.
Nous ne nous cachons pas, monsieur.
Vous êtes un impertinent, monsieur.
Ah!
Tenez, vous ne méritez pas la confiance
que j'avais en vous.
J'étais venu en ami, en
bon ami.
Je ne puis me défendre d'une serre.
T'as une sympathie pour vous.
Vous êtes de tous
les amants de Geneviève le plus intelligent et
le mieux éduqué.
Et puis, vous êtes joli gars.
Ces points ont.
Il devenait écœurant, ce cocu mou.
Et
inquiétant.
Où voulez-vous en venir, m'écriai-je.
Il se tut.
Cela m'enhardit.
Votre attitude est dégoûtante, vous en
tendez.
Votre femme.
N'en dites pas à mal, je vous prie.
85. Biblitrique de Téguig, 01, D.
Surtout à moi.
Allons, calmez-vous et tenez.
Vous en à mes indications.
Cachez-vous,
ou
alors.
Ou alors.
Rien.
Vous verrez.
Il sortit sans ajouter un mot.
Je ne l'ai
jamais revu.
Et Geneviève.
Geneviève non plus.
Que se passa-t-il
dans le ménage?
Je l'ignore.
Elle a mal fini.
D'ailleurs,
la pauvre femme m'a remplacée par
un type qui a eu la médaille du salon l'an
passé.
Au fait, son saligaud de mari doit
le trouver à son goût.
Et il vient, est-elle bien
lyonnaise, mon histoire?
C'est tout Lyon, dit le musicien.
8G.
X.
La beauté de Lyon.
Non, dit Josserand le peintre, non, ce
n'est pas tout Lyon.
Il reste sa beauté.
C'est
cela qui compte seul, mes amis, la majeure
tueuse, trouble et dolente beauté d'une ville.
Qui, parmi toutes les autres, ressemblera tout
jour-ci une exilée.
Lyon porte ses brumes
comme un manteau de fée triste.
Ses larges horizons, ses quais, ses fleuves.
Ses places ont la grandiose désolation des
cités mortes.
Et Lyon vit, pourtant, d'une vie
puissante et sereine, elle vit et sourit.
Mais
cette belle inconnue refuse aux étrangers, aux
passants, aux touristes, à toi les forains en
ce pays, le sourire que nous seuls, Gans, fils de Gans, savons trouver sur ses lèvres mélancoliques.
Bah, dit le musicien, les étrangers ont
notre cuisine. Ils s'en contentent.
Donnez-leur
la bonne adresse et ils ne demanderont pas à
Bibliothèque de Guignol.
Voir le sourire de votre humide et plaintive
Joconde.
Pardonnez-leur.
Ils ne savent ce qu'ils
dédaignant.
Mais les voyageurs sont des ESP et
c'est de Dojuan.
Il leur faut des villes faciles.
Ils s'écartent de la chaste Lyon.
Parlez-leur.
De Grenoble la coquette, de Genève la cossue.
Ou de Rouen la dentellière, ou de Marseille
la goulue.
Du soleil, des murs neufs, du
moyen âge ou des glaciers, voilà ce qui compte.
Vient au de Campbell et de Bediquet.
Mais
le charme des Prudeville et Chapeau.
Coureur de gare.
La blonde Nice, la rose.
Toulouse se laisse plus volontiers peloteux
que Lyon la cendrée.
Mais il est l'heure de
boire l'apéritif.
Descendons.
Ils sortirent.
6 heures frappaient.
Le cré.
Puscule bleu et argent des automnes lyonnais.
Accrochait ses brumes au clocher.
Des
fumées s'élevaient des toits et demeuraient
immobiles dans l'air, comme sur un tableau.
Une chaleur moite alanguissait toutes choses.
Et mêlée au bruit de ruches qui s'évasent sans fin.
De la ville acharnée, on entendait au loin des
sifflets de laitiers, des appels de sirènes et des
cloches de tramway.
Une odeur de légumes s'évadait de chez les
88.
Mémorial de la rue Sainte-Hélène.
Fruitière.
Sur un trottoir, une courge se vaut.
Très, jaune et obscène.
Les amis parvinrent à ces quais de la
Saône, abrupt ces déserts, tout pareil aux
images qu'ont laissé les graveurs du
temps boissieux.
Ces rames de nos peintres.
Il n'en est
point qui ne trouve en ce décor immuable, en
ces quotidiennes fêtes de couleurs, sa
justification.
Éphémère et toujours semblable, tel est
notre ciel.
Guindrand, Vernet, Caran, Adrien.
Bah, on nourrit leur regard de cette clarté laiteuse
et de ces eaux d'absinthe.
Un pêcheur immobile s'obstinait dans le cré.
Puscule.
Il se penchait sur le parapet, à cet
endroit, près du pont il cite, où l'eau couvrant
les bas-ports, bat la maçonnerie du quai et noie
les pilotis verts.
Je le connais, dit le musicien.
C'est un
homme singulier qui, depuis 12 ans, lutte
de ruse et de patience avec une vieille brême.
Grosse comme un thon.
Voyez.
Voyez là qui
se retourne dans le flot.
Un poisson énorme se roulait au pied de la
muraille.
Moins il l'a ferré plus de 100 fois.
Elle casse
ses lignes.
C'est un duel à mort.
J'ai toujours
pensé que le poisson aurait un jour raison de
89.
Bibliothèque de T. Guignol.
L'homme le flanquerait à la flotte et finirait par
le noyer, lui et ses engins.
Mais le peintre regardait le paysage.
Lyon
s'offrait dans un de ses beaux soirs.
Ses passes.
Elle s'élançait dans le brouillard de cuivre
et d'argent, ainsi que des arcs légers.
Les
pointes d'innombrables clochers s'élevaient au
ciel et les églises semblaient conduire le lourd
convoi des armées de pierre.
Ça et là, n'essayaient
des lumières d'un jaune verdissant de vieille
orfèvrerie.
Est-il un endroit dans le monde?
Une capitale où les réverbères ont, au soir Tom
Burnt, cette clarté-là.
Ville de quais, de collines, de rampes, de
fleuves, de rumeurs et de prières,
ville sans
jardins et sans palais,
ville où tout ce qui orne
les autres villes n'est que place perdue,
ville de
travail et de fidélité,
que l'étranger croit hostile. parce qu'elle est discrète et sérieuse. Lyon mourait dans le soir envahissant. Et, plus loin, là-bas, au bout des rives géométriques. Caisse, rougie par les averses, des escaliers de maisons, des perrons énormes se poussaient. Vers le ciel, Babel pieuse, qui pense escalader. Les nues. Et tout se perdait dans la brume vaporeuse. D'un rêve sans fia. C'est beau, dit le poète. 90. Le mémorial de la rue Sainte-Hélène. Mais des larmes tombaient sur le gilet du Payatrais, un beau gilet de velours, au sabre. Tissé par les derniers canuts. Une voix de chane. T'es au loin la cantilène des marchands de pâtes. Et les quatre copains allèrent boire paix. Puisqu'aussi bien, chez nous, tout finit par des boissons. À Armée, mai 1916. Et à Paris, avril 1919. Fin. Table des matières. Page. I. Rencontre 9. 2. Nocturne 13. 3. Identité 19. 4. Libation 31. V. Transiloire 41. 6. L'amateur de cru 43. 7. Récit du peintre 55. 8. A. Genèse 65. 9. Geneviève de Barabans 77. X. La beauté de Lyon 87. En préparation. Les remords d'un Gros Léon. Roman. Par Georges Champeau.